Alors bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 et tout de suite on accueille Chantal Hureau et Sébastien Garcia de Le Mouvement du Nid. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Alors aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement, d'une pièce de théâtre, mais avant je vais peut-être vous demander de vous présenter pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'association Le Mouvement du Nid.
Oui, alors Le Mouvement du Nid est une association reconnue d'utilité publique et qui lutte contre les violences sexuelles, les violences sexistes et dont la prostitution. Elle agit donc sur les causes et les conséquences de la prostitution, les causes et les conséquences des violences en général. Donc nous avons 4 domaines d'intervention. Nous agissons dans le cadre de la prévention contre la violence auprès des jeunes, en milieu scolaire par exemple.
D'accord.
Nous agissons aussi dans les formations pour les travailleurs sociaux. Nous faisons un travail de sensibilisation du public et puis nous aidons les personnes victimes de prostitution à se sortir de leur situation. Donc je vais parler de la pièce de théâtre qui va avoir lieu le 28 février. Cette pièce de théâtre est exactement un spectacle d'improvisation de différents sketchs qui traitent des thèmes de l'égalité des droits des femmes, des violences sexuelles, des violences sexistes, des conséquences du sexisme sur la vie quotidienne, de l'achat d'un acte sexuel et de la vie quotidienne de la prostitution.
D'accord. Donc cette pièce, elle est comment dire, en parfait accord avec les valeurs que vous défendez dans cette association. Donc moi, ma question, c'était comment vous avez connu l'existence de cette compagnie de théâtre donc, qui sont les Bradés, qui sont une compagnie de théâtre qui nous vient de Paris. Alors comment vous avez fait appel à eux? Comment cette collaboration s'est mise en place pour présenter cette pièce?
C'est une compagnie de théâtre, les Bradés, qui aime bien travailler avec le Mouvement du Nid parce qu'ils combattent des idées identiques aux nôtres. Alors, donc, c'est pour ça qu'ils demandent d'ailleurs l'intervention du Mouvement du Nid dans les débats qu'ils peuvent mener pendant leur pièce de théâtre, pendant l'exécution de leur pièce de théâtre. Alors, c'est un théâtre participatif, c'est un théâtre qui essaie d'impliquer les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont jouer certaines scénettes une fois, ensuite ils vont la rejouer une deuxième fois, mais en arrêtant à des points clés, des points très importants pour inviter le public à venir sur scène avec eux et essayer d'imaginer des comportements et réfléchir ensuite sur ces comportements.
D'accord, donc les élèves vont avoir leur mot à dire et leur avis à donner durant ces petites scénettes.
Oui, alors tout à fait. Donc il va y avoir 2 représentations. Une représentation le mardi 28 février à 14h au lycée Voltaire, avec 2 classes de terminale STMG. Et puis il va y avoir aussi une représentation le soir pour le grand public. Alors les parents d'élèves d'ailleurs sont fortement invités à venir écouter ce que leurs enfants auront vu dans l'après-midi, ce qui est très bien parce qu'il faut qu'un dialogue en famille puisse être fait. Donc le soir, ça a lieu à l'auditorium de la médiathèque à 20h30.
D'accord.
Alors le Mouvement du Nid est organisateur et nous avons le soutien d'autres organisations du Forum des droits humains. Le Forum des droits humains, c'est un regroupement de 28 associations, mais le soutien a été apporté en particulier par elles aussi, par Zéro Macho, par Mixité, par la Ligue de l'enseignement, par la Fédération des parents d'élèves du Loiret et par le planning familial.
D'accord, donc vous êtes assez soutenu pour ces 2 représentations. Vous nous parliez à l'instant du réseau du Forum des droits humains. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler, puisque cette pièce est présentée dans le cadre de ce réseau, de ce forum? Comment ça s'est passé?
Alors, ce qui se passe, c'est que le Forum des droits humains a pour but, effectivement, de lutter pour l'égalité des droits pour tous, pour faire reconnaître les droits humains. Et donc, ça s'intégrait parfaitement dans l'objectif de ce regroupement d'associations.
Je vais peut-être revenir à vos postes au sein de cette association. Vous, Chantal, vous êtes responsable de quoi dans cette association?
Alors, je fais plusieurs tâches. En ce moment, je fais de la communication. J'anime la page Facebook du Mouvement du Nid Loiret. J'essaie d'avoir des contacts avec la presse pour des événements. Alors, par exemple, nous avons eu un colloque jeudi dernier, le 9 février, sur le cyberharcèlement, sur l'hypersexualisation et sur la pornographie. Donc j'ai eu des contacts avec la presse à ce sujet. Nous avons eu d'ailleurs 200 personnes presque à ce colloque. C'était un véritable succès et c'était très intéressant d'ailleurs. Et j'espère que des actions vont se poursuivre par rapport au harcèlement que connaissent en particulier les jeunes et le cyberharcèlement aussi.
Et alors vous, Sébastien, vous êtes responsable de quoi dans cette association ?
Alors moi, je suis chargé de prévention, c'est-à-dire que je suis chargé d'organiser les rencontres avec les jeunes, situation de débat, situation de discussion en groupe. Quand je dis les jeunes, c'est la plupart du temps des adolescents, donc de 11 à, jusqu'à 18 ans, ça peut être de jeunes adultes aussi. Le but de la prévention au Mouvement d'Unis, bah, c'est de parler de toutes les situations de violence dont on a parlé un peu juste avant, situation de harcèlement, de sexisme, pour essayer de faire changer un petit peu les comportements, en tout cas faire réfléchir les jeunes sur les situations sur lesquelles ils peuvent changer, c'est-à-dire tous les comportements qu'ils ont et sur lesquels ils peuvent influer pour cohabiter dans une société où on peut vivre ensemble, en fait. Alors, ça veut dire que les faire réfléchir là-dessus, ça veut dire que quand on les rencontre, on accueille leurs paroles sans jugement, hein, c'est-à-dire que bah, dans les classes, dans les groupes dans lesquels ils appartiennent, en milieu scolaire ou hors milieu scolaire, c'est-à-dire aussi des adolescents qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc ça nous fait des groupes très très différents à chaque fois, hein, des groupes mixtes la plupart du temps. Et l'idée, c'est de débattre, d'échanger, sans jugement de notre part, mais en essayant de faire en sorte qu'aussi il n'y ait pas de jugement de leur côté. Donc les faire s'exprimer, les faire réfléchir sur tous les sujets dont on a dit. Non pas pour nous leur dire des choses, j'ai dit écouter depuis tout à l'heure, parce qu'on pense que la prévention, faire réfléchir les uns et les autres, c'est plus intéressant si ça vient d'eux-mêmes que de leur dire tout un tas d'informations de manière transmissive.
Vous voulez dire que c'est plutôt le raisonnement qu'ils vont avoir lors de ces conversations qu'ils ont entre jeunes accompagnés par vous. C'est ce raisonnement qui va les faire changer leur vision des choses et peut-être leur pratique. Tout cet échange va faire en sorte qu'ils vont changer leur mentalité en entendant le discours également des autres dans cet échange.
Oui, c'est ça. Écouter les autres, c'est aussi savoir pourquoi on pense ce qu'on pense, éventuellement douter de ce qu'on pense et du coup amener un espace de réflexion, d'échange autour de ces sujets-là qui sont importants, qui mettent en œuvre, dont ils sont tous les jours imprégnés en fait. Hein, parce que bah, les relations garçon-fille, bah, c'est tous les jours que ça se vit. Le vivre ensemble, ça, c'est dès qu'on se réveille le matin jusqu'à ce qu'on se couche, même après. Quand on parle de harcèlement, par exemple, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, c'est pas simplement du matin au soir. Ça peut être du soir au matin aussi pour certains qui sont tout le temps connectés. Donc la prévention, elle vient pas nécessairement leur dire attention ou leur dire voilà ce qu'il faut faire, mais les aider à trouver eux-mêmes leur propre réponse. Et du coup, s'ils sont capables de trouver leur propre réponse, ça veut dire qu'il y a plein de réponses différentes qui sont valables en fonction de qui ils sont.
Donc c'est vrai qu'en plus, le harcèlement, surtout chez les jeunes, le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel et puis les relations filles-garçons, c'est un sujet qui est au cœur des débats dans ce moment de notre société actuelle. Et alors, est-ce que vous pensez que les jeunes sont le premier public que vous devez prévenir, ou avec qui vous devez faire de la prévention, en tout cas pour ces sujets-là?
Les jeunes, oui, ils sont les premiers confrontés. Après, Chantal parlait des parents aussi. Si les jeunes réfléchissent, mais qu'ils n'en parlent jamais aux parents, voilà, ils vont être un petit peu esselés dans leur réflexion. Donc c'est l'affaire de tout le monde, mais les jeunes en particulier, nous on rencontre principalement des collégiens, mais on est parfois demandé sur un public un petit peu plus jeune, dans les écoles primaires. Voilà, les choses elles commencent pas en sixième, hein. Elles commencent pour certains au CM1, CM2, les situations de harcèlement elles sont déjà pour certains et certaines bien ancrées. Donc les collèges récupèrent des élèves avec un passé déjà, face à ces situations. Donc ce qu'ils peuvent mettre en place, parfois c'est de la prévention, mais qui vient pas tellement en amont de ce type de phénomène. Donc on va être sur différents types de prévention. Hein. La prévention primaire, ça va être s'adresser à un public qui a a priori pas subi de violence ou peu subi de violence. La prévention secondaire va s'adresser à un public qui de fait en a déjà vécu, bien souvent un public hors du système scolaire, un public en décrochage, un public déscolarisé. Et la prévention tertiaire, entre guillemets, ça va être plutôt une prévention de la récidive en termes de violences vécues. Donc c'est-à-dire pouvoir se sortir des situations dans lesquelles on est pour ne pas subir davantage.
Et je dois dire que la présence d'Internet, en fait, multiplie le cyberharcèlement, puisque les jeunes, justement, ont des smartphones, presque tous, pratiquement, et qu'ils visionnent facilement des scènes, en fait, par exemple, de la pornographie, et en plus des insultes ou des sexting qui viennent aussi de la part de leurs camarades. Et donc, ils sont soumis à une violence particulièrement importante à cause de cette diffusion sur Internet.
Mais c'est surtout que vous disiez tout à l'heure que, justement, cette prévention, elle ne se faisait pas qu'à partir de la sixième. C'était, c'est le cas avant la sixième, surtout justement grâce ou à cause, d'ailleurs, de cette évolution des technologies et du fait qu'on a un portable avant même d'être en sixième. Donc c'est vrai que ça commence de plus en plus tôt. Et est-ce que vous pensez que justement, une pièce de théâtre peut avoir plus d'impact qu'un dialogue, qu'une conférence, qu'une rencontre avec vous ou qu'un message Facebook
Ouais. Disons que cette pièce de théâtre-là, elle est particulière, parce que les spectateurs sont acteurs. Les spectateurs sont amenés à vivre des situations sur scène et à réagir spontanément par rapport à des situations. Donc, elle implique peut-être plus le public que s'il est complètement acteur. C'est un bon outil, le théâtre participatif.
Spectateur, tu voulais dire peut-être.
Pardon ? Oui.
Plus que s'il était complètement ou juste spectateur.
S'il était juste spectateur, c'est ce que j'ai voulu dire en tout cas, oui, effectivement.
D'accord, donc tout à l'heure, pardon, je vous ai coupé, non ?
Non, j'aurais dit la même chose que Chantal, en fait, hein, le fait de pouvoir les faire réagir et d'accueillir un peu leurs paroles, leurs réflexions, sans leur dire c'est bien ou c'est nul ce que tu dis, hein. Ça leur permet de réfléchir, voilà, de trouver des solutions. Après, les acteurs donnent la réplique pour les orienter sur est-ce que ce qu'ils viennent de proposer, c'est valable ou pas, quoi. Donc c'est là où il y a de l'improvisation en fonction de ce que les jeunes proposent comme solution. Les acteurs donnent la réplique et les jeunes se rendent compte si ça fonctionne ou pas, ce qu'ils proposent comme solution.
Tout à l'heure, Chantal, vous nous disiez que ce n'était pas la première fois que vous travaillez avec cette compagnie Les Bradés, qui du coup défendent exactement les mêmes valeurs et surtout dans leurs pièces de théâtre. Est-ce que c'est la première fois que vous présentez cette pièce de théâtre? En tout cas, Figarçon, Demain nous appartient.
Oui, c'est la première fois que nous les faisons venir à Orléans. Et donc, si ça fonctionne bien... Pourquoi pas ne pas les faire revenir plus tard? Et à l'université, par exemple, pourquoi pas au Bouillon? Pourquoi pas dans un milieu étudiant? Parce que c'est quand même un outil, en fait, qui peut s'adapter à tous les publics et que les Bradés maîtrisent très bien. Ce sont des comédiens professionnels qui aiment beaucoup leur métier.
Mais vous avez fait appel à eux avant cette pièce, de ce que j'ai compris.
Alors, la pièce, elle est le partenariat entre la compagnie et le mouvement d'Uni, c'est un partenariat qui est national, qui est parisien en premier lieu. Et nous, on les sollicite sur Orléans parce que c'est faisable. Mais il y a un rapprochement national entre le mouvement d'Uni, qui est une association nationale, et cette compagnie-là.
Et donc le projet, justement, c'est que si ça marche bien, en tout cas pour ce qui est du lycée Voltaire, vous allez pouvoir peut-être faire une petite tournée également dans d'autres lycées ou dans d'autres collèges ou d'autres primaires.
Ah oui, tout à fait. S'ils le demandent, ce serait bien. D'ailleurs, nous espérons avoir dans le public de la représentation du soir des adultes, mais aussi des lycéens d'autres lycées. Parce que je connais des personnels des autres lycées qui essaient d'amener les lycéens de leur établissement pour cette représentation du soir.
Et en dehors de cette pièce, qu'est-ce que vous menez comme action justement pour défendre vos valeurs et lutter contre le sexisme, pour l'égalité homme-femme? Quel genre d'action vous menez, mis à part cette pièce de théâtre?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu un colloque sur le cyberharcèlement, la pornographie et l'hypersexualisation, et nous avons dénoncé là la domination des stéréotypes sexistes. Par exemple, dans la pornographie, il y a donc des images de violence, de domination contre la femme, et d'ailleurs qui représentent un modèle pour les jeunes enfants, bien avant leur adolescence, bien avant que leur personnalité soit vraiment formée. Donc ça, c'est une forme d'action que nous avons. La prévention dont se charge Sébastien, elle est importante aussi. Nous voyons plus de 3000 scolaires par an, donc il y a quand même une action d'importance et nous espérons quand même la continuer. Alors malgré les restrictions budgétaires dont nous sommes plus ou moins victimes, mais là, il serait temps maintenant qu'on agisse vraiment beaucoup et que de nouveau, on retrouve des subventions à la hauteur du besoin.
Les actions, elles sont aussi au niveau du public. Hein. Tu disais tout à l'heure, ça peut être des films, débats, ça peut être des conférences. Oui. Voilà, là, c'est l'actualité récente, mais sinon, il y a toutes sortes de choses. Il y a des forums qui sont organisés dans lesquels on est présent. Voilà, on répond assez positivement à tout ce qui est fait, hein. Tout ce qui est proposé.
Et alors, vous nous parliez tout à l'heure, Sébastien, des ateliers que vous menez avec des jeunes ou moins jeunes. Est-ce que c'est des jeunes qui reviennent ? Est-ce que c'est des sessions hebdomadaires ou mensuelles où les gens peuvent revenir rediscuter, rééchanger, peut-être rééchanger leur point de vue s'il a changé ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui se... C'est pas le bon mot, mais qui se repentissent et qui, justement, viennent donner leur avis et leur expérience à ces jeunes-là ?
Nous, en prévention, la plupart du temps, on voit une fois ces jeunes, peu importe le lieu dans lequel ils sont pris en charge. Dans les établissements scolaires, la plupart du temps, c'est une fois. Hors établissement scolaire, c'est 2, 3, jusqu'à 5 fois. On peut les rencontrer à intervalles de 2 semaines entre chaque groupe de discussion. Ça permet de voir des choses changer. Après, on leur laisse la possibilité de nous recontacter s'ils souhaitent, après, pour continuer les échanges un peu plus individuellement, on va dire. Et puis ces jeunes-là, en fait, quand on les a rencontrés, admettons, au collège, et quand on les rencontre à nouveau dans les lycées, eh ben, on se rend compte de divers changements quand même. On intervient, par exemple, à Poitiers auprès de toutes les classes de seconde. Eh ben, les élèves qui arrivent à Poitiers, on les a déjà rencontrés pour une bonne partie d'entre eux dans les collèges de recrutement de ce lycée.
D'accord, donc il y a un suivi qui se fait consciemment ou inconsciemment.
Oui, plutôt inconsciemment, mais c'est, voilà, le principe, c'est qu'en fonction de l'âge qu'ils ont, quand on les voit, on n'aborde pas les mêmes choses. Quand on voit des 6e, des 5e, on parle plus de harcèlement. Quand on voit des 4e, des 3e, on est plus sur relations garçon-fille, sentiments amoureux, etc. Et quand on vient en seconde, on va être sur les stéréotypes, par exemple.
Et alors, au niveau de l'évolution de ces dialogues, votre avis, il est que l'évolution va vers le bas ou est-ce que les mentalités sont en train de changer ? Est-ce que c'est pire maintenant ou est-ce que c'était pire avant ?
C'est difficile d'apprécier ça. C'est une question un petit peu piège parce que faudra avoir un grand recul. Ce qui est sûr, c'est que ces sujets-là, éventuellement, on peut plus en parler. Peut-être plus d'endroits où on peut discuter de ces choses-là parce que ça fait aussi partie des programmes scolaires et il y a des adultes qui sont prêts à écouter les jeunes sur ce sujet. Malgré tout, dans la vie d'un jeune, il y a plein de moments où c'est un peu interdit d'en parler. Donc, d'un côté, il y a peut-être des restrictions, c'est-à-dire pendant les 3/4 du temps, je ne peux pas tellement en parler. Et puis, il faut que je me saisisse des moments qui seront à ma disposition pour en parler aussi. Voilà. Ce n'est pas forcément simple pour un jeune de gérer cet exercice-là. Parce que quand on vient leur dire qu'on les écoute sans jugement, etc., finalement, ils ne sont pas tellement habitués à cette dynamique-là. Donc, pour certains, il faut un petit peu de temps pour se mettre en route. Et puis, une fois qu'ils ont compris que ça fonctionnait, qu'ils pouvaient tous écouter les uns les autres, nous y compris, ils se prêtent au jeu et c'est là qu'on peut observer des changements éventuellement. Mais apprécier les choses de manière plus globale, c'est, moi je ne saurais pas dire. Mais...
Oui, moi je voudrais dire qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui montraient quand même que 17% des filles étaient victimes quand même de sexting, c'est-à-dire qu'on fait circuler des photos, des vidéos contre leur accord, dans des tenues évidemment qu'elles ne veulent pas voir apparaître sur Internet. Les conséquences sur... Et ça, c'est un phénomène quand même qui s'aggrave. Ce sont des études du centre Hubertine Auclert et puis des études de sociologues aussi. 11% des garçons aussi en sont victimes. Ceci dit, c'est les filles qui en subissent le plus les conséquences parce qu'il y a un jugement moral contre elles. Et quand elles sont victimes, on les accuse. On essaie de porter la culpabilité sur elle. Et finalement, celui qui est responsable de cette circulation de photos vidéo, c'est-à-dire l'agresseur, lui s'en tire très bien. Il s'en tire, en fait, avec une image de quelqu'un qui a vaincu, qui n'a rien à se reprocher. Et c'est ça, en fait, le stéréotype qui, finalement, circule à l'encontre des filles. C'est-à-dire, il y a aussi, en fait, une visée de dominer son comportement, de contrôler aussi son comportement aussi bien dans sa sexualité d'ailleurs que dans sa tenue vestimentaire, que dans sa façon de parler, dans sa façon de se conduire. Finalement, d'ailleurs, les suicides qu'on observe chez les adolescents, de plus en plus nombreux, c'est chez les filles qu'on les voit, à cause de ces rumeurs, finalement, qui font souffrir la fille plus que le garçon quand ça a lieu. Mais là, je dois dire qu'à cause des stéréotypes sexistes, il y a un encouragement pour l'agresseur de continuer, parce que lui s'en tire très bien. Mais la société, elle se retourne contre la fille quand elle est victime de ce genre de harcèlement. C'est terrible, hein ?
Oui, c'est terrible. Et c'est vrai que, enfin, je veux dire, moi qui ai 23 ans, je l'ai connu en tout cas quand j'étais au collège, quoi. Donc, pour dire que ça fait déjà quelques temps que ça dure. Et je pense que les technologies et l'accès au smartphone très tôt n'arrangent vraiment pas du tout cette situation. Et il faudrait qu'il y ait de la prévention, en tout cas par rapport au téléphone, de bien faire comprendre justement quel est l'intérêt du téléphone dans certains cas et quels sont les inconvénients dans d'autres. Et je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients quand les jeunes sont très très jeunes et ont vite l'accès à ces technologies.
Tout à fait.
Donc c'était d'où là ma question, où depuis que les smartphones et la technologie Internet est plus facile d'accès, est-ce que justement ce harcèlement n'est pas plus présent, en tout cas pour les jeunes ?
Même sans ça, il aurait lieu quand même, hein, de toute façon. Mais il est plus présent, je disais tout à l'heure, dans la vie du jeune. Hein.
Il est plus viral, c'est peut-être plus ce que je veux dire, c'est plus, que la portée est plus importante.
Ah, puis les conséquences, elles sont de plus en plus ressenties quand même, parce que le nombre de suicides chez les filles, il a été plus grand quand même ces derniers temps qu'avant l'existence de la multiplicité des smartphones comme ça, c'est sûr. Le phénomène s'est quand même aggravé. Il y a eu des actions dans l'éducation nationale, d'ailleurs, contre le cyberharcèlement. Mais enfin, il reste beaucoup à faire. Hein. De toute façon, c'est sûr que c'est encore quelque chose d'important comme action à mener. Et d'ailleurs, au colloque de jeudi dernier, l'après-midi, il y a eu des tables rondes qui ont réuni les acteurs locaux qui ont affaire à la jeunesse et qui regroupaient des représentants de la justice, de la police, mais de Fédération de parents d'élèves, de la santé, de la PJJ aussi, la police judiciaire de la jeunesse, et donc domaine de l'espace social en faveur des élèves, de l'inspection académique qu'on appelle maintenant la DDS2N. Et d'ailleurs, bon, il y a eu des volontés de travailler ensemble sur le plan local pour essayer de mener des actions auprès de tous ceux qui ont des contacts avec les jeunes et de faire en sorte que ce phénomène puisse se résorber et qu'il y ait une prise de conscience totale et nécessaire.
Avant de finir avec vous, je vais peut-être vous faire rappeler un peu toutes les informations pour les auditeurs qui seraient intéressés pour aller voir cette pièce et puis même pour les gens qui seraient peut-être intéressés pour rejoindre votre cause et votre association.
Bien sûr. Alors, le mouvement d'Uni, l'adresse est 39 rue Saint-Marceau, à Orléans. Nous avons une page Facebook, Mouvement d'Uni Loiret, et je laisse Sébastien donner les coordonnées de la prévention, par exemple.
Alors nous, l'adresse mail pour nous contacter, c'est prévention45@mouvementduni.org. Et puis les informations utiles, pour les répéter, ce qu'on disait tout à l'heure, donc 28 février, la troupe de théâtre est au lycée Voltaire, de 14h à 16h. Et le soir, donc, c'est à l'auditorium de la médiathèque à 20h30.
Oui, alors j'ajoute que la séance de l'après-midi n'est réservée qu'à deux classes de terminale. Mm-hmm. Pour le grand public, c'est le soir.
D'accord. Eh ben, j'espère que le public sera nombreux pour justement observer votre travail aider les jeunes et vous aider à défendre aussi ces valeurs, parce que je pense que c'est important de, comme vous dites, ne pas s'adresser qu'aux jeunes, mais s'adresser aux responsables justement des jeunes qui peuvent les prendre en, comment dire, les faire réagir sur ces sujets-là, donc les professeurs, l'administration, les foyers, les MJC, les choses comme ça qui les gèrent et qui peuvent gérer un peu ces conflits face au harcèlement, au sexisme et à toutes les autres valeurs que vous défendez. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, Chantal et Sébastien. Et puis, j'espère que le public sera nombreux, encore une fois.
Okay. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Merci.